franceinter.fr.
Sébastien Eugénie pour l'info. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. À la une ce soir, le coup de gueule inattendu des députés de l'opposition. Ce n'était encore jamais arrivé depuis la présidentielle. Des dizaines d'élus ont quitté l'hémicycle pendant quelques minutes pour dénoncer les tentatives du pouvoir de limiter leurs droits d'amendement. Reportage dans un instant. L'autre grand titre ce soir, c'est la nervosité qui monte à la veille de la grande journée de mobilisation. Dans les services publics, la direction de la SNCF accuse la CGT de vouloir sciemment désorganiser le trafic pendant des mois. On fera le point justement sur le trafic dans ce journal. Nicolas Sarkozy toujours devant les enquêteurs à Nanterre. Sa garde à vue sera-t-elle prolongée? Nous serons sur place. Au menu également un rapport parlementaire qui préconise la création de prisons ouvertes. Moscou convoque les diplomates occidentaux pour donner sa version de l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergueï Skripal. 6 candidats au poste de PDG de Radio France. On vous en dira davantage sur leur profil. Et puis l'Union internationale cycliste dévoile son arsenal anti-fraude avec des contrôles de vélo par rayon X.
Et ce soir au téléphone sonne Sébastien, faut-il brûler les médecines douces? L'homéopathie, ça sert à rien, l'effet n'est que placebo. La mésothérapie, même combat, l'acupuncture, pas mieux. Depuis que 124 médecins ont signé une tribune dans le Figaro cette semaine affirmant que les thérapies dites alternatives n'avaient aucun effet, eh bien ça fait parler chez vous, dans les pharmacies, chez le médecin. Alors autant le faire ici aussi, 01 45 24 7000.
Est-ce un autre signe de la grogne anti-Macron qui monte dans le pays? Le Palais Bourbon, en tout cas, a connu aujourd'hui une poussée de fièvre inédite. Incident de séance cet après-midi à l'Assemblée nationale, le premier de cette ampleur depuis la nouvelle législature. Tous les députés de l'opposition ont quitté l'hémicycle pendant un court instant. À l'origine de cette bronca, des élus, un mot malheureux de la garde des Sceaux sur le droit d'amendement que les députés craignent de voir rogné par le pouvoir. Estelle Schmitt était dans les travées de l'Assemblée.
Tout est parti d'une question du député Les Républicains Philippe Gosselin sur le projet du gouvernement d'encadrer le droit d'amendement dans sa révision constitutionnelle. L'opposition est inquiète et la réponse de la garde des Sceaux Nicole Belloubet met le feu aux poudres.
Il faut cesser de confondre la forme, c'est-à-dire le nombre, et le fond, c'est-à-dire la qualité.
La droite se lève, merci. Puis tous les groupes de l'opposition quittent l'hémicycle. Jean-Luc Mélenchon, chef de file des députés France Insoumise, dénonce une agression.
Ça ne s'est jamais vu. L'exécutif ne dit pas aux législatifs, tâchez de bien travailler pour que ça me convienne. Madame Belloubet, qui d'habitude est beaucoup plus modérée et prudente, a quand même franchi un seuil incroyable.
Mépris de la démocratie et de l'opposition, selon la présidente du Front National, Marine Le Pen.
La prochaine étape, c'est quoi? Elle va décider ce qu'il y a dans les amendements. On aura le droit à une censure préalable, peut-être, de la part du gouvernement.
Et pour Olivier Faure, patron des députés socialistes, la future réforme constitutionnelle va déséquilibrer les pouvoirs.
Jupiter aura dans ses mains tous les éclairs et sera le seul à pouvoir décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour les Français.
La majorité, elle, ironise. Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche.
C'est la comédie dell'arte, c'est une manière de se faire remarquer pour quelque chose qui ne méritait pas tant.
Au bout de quelques minutes, fin de l'incident, la séance reprend, mais le bras de fer sur le droit d'amendement, lui, ne fait que commencer. À l'Assemblée nationale, Estelle Schmitt, France.
Et puis sur un autre dossier controversé, la réforme du quotient familial, on vous racontait hier soir la mise au rancard d'un rapport parlementaire qui prévoyait la fin de ce quotient, provoquant de vives tensions entre le parti Les Républicains et La République En Marche. Et bien aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement a signé la fin de l'histoire, pour le moment en tout cas. Le gouvernement écarte toute modification du quotient familial, fermez les guillemets.
Il y a de la fébrilité dans l'air à la SNCF.
Oui, la veille de la grande journée de mobilisation des cheminots et des fonctionnaires, le ton et subitement monté d'un cran aujourd'hui entre syndicats et direction du groupe ferroviaire. À l'origine de ces bisbilles, un mail très polémique d'un délégué parisien de la CGT cheminot publié ce matin par nos confrères du Parisien, où le syndicat se félicite à l'avance d'un mouvement qu'il dit ingérable. Faire grève 2 jours sur 5 va, je cite, fortement désorganiser le trafic, poursuivant, nous pouvons tenir 3 mois, ils n'ont pas senti venir le coup, fin de citation. Un mail et des méthodes qui ont profondément choqué la direction de la SNCF. Écoutez son PDG, Guillaume Pépi.
Ce document, il est choquant parce que à la SNCF, le droit de grève, il est reconnu et respecté. Et quand la grève se termine, le service public reprend ses droits et les trains fonctionnent normalement. Ce document, il montre une intention de perturber le service, même quand la grève est finie. C'est choquant. Et c'est pas comme ça que la SNCF fonctionne. Je pense que ça va surprendre beaucoup de cheminots, et en tout cas, c'est pas l'esprit du service public, c'est pas la façon dont la SNCF rend le service public et dont les cheminots s'engagent.
En face, la CGT accuse la SNCF de fouiller dans les poubelles de Facebook et de vouloir décrédibiliser les cheminots. Écoutez Philippe Martinez, son secrétaire général.
Et s'il a décidé de faire grève, on lui expliquera parfaitement les modalités de la grève. Mais il sait très bien comment ça se passe. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'il est président de la SNCF. 2 jours de grève tous les 5 jours, ça veut dire qu'il y a 3 jours où le service est assuré normalement. La CGT a proposé un projet d'entreprise qui est d'abord destiné à faire de la SNCF une entreprise de service public ferroviaire au service des usagers. Et c'est donc ça qui est en jeu. Si le gouvernement dit on en est prêt à discuter de tout, mais vraiment de tout, parce qu'aujourd'hui ils sont d'accord pour discuter de ce qu'ils ont mis sur la table, eh bien la grève ne peut s'arrêter, même ne pas commencer.
Philippe Martinez de la CGT, propos recueillis par Hélène Philly et Boris Allier de France Bleu Roussillon. Alors en attendant le début de cette grève dure à la SNCF, début avril, c'est ce soir que commence la répétition générale. En quelque sorte, depuis 19h, depuis quelques minutes, le trafic est déjà impacté. On fait tout de suite le point avec vous, Kevin Dufraîche, sur le rail, mais aussi dans les airs. Il faut s'attendre à des perturbations importantes.
Et oui, Sébastien, sur le rail, d'abord, la SNCF annonce seulement 4 TGV sur 10 en circulation, 1 sur 4 pour les intercités et seulement 1 TER sur 2. Ça varie selon les régions. En Ile-de-France, le trafic RER sera globalement perturbé. Comptez en moyenne 1 train sur 3 pour les lignes A, B et C. Sur la ligne D, ça coince encore plus. 1 train sur 4 uniquement aux heures de pointe et seulement sur le tronçon Villiers-le-Bel-Melun. Aucun train sur les autres branches. Dans les airs, maintenant, la perturbation devrait être moindre. Air France prévoit de maintenir 100% des vols long courrier, 3/4 des moyens courriers et 60% des courts courriers. Mais attention, à Air France, 11 syndicats appellent à une grève interne, cette fois pour la journée de vendredi. Enfin, à la RATP, on anticipe un trafic quasi normal sur les métros, bus et trams. Alors, pour éviter les surprises, le mieux, c'est de vérifier régulièrement sur les sites et les applications si vos trains et vos avions sont bien partants. Sébastien, il faut donc dès à présent s'armer de son smartphone et peut-être pour certains de pas mal de patience.
Kevin Dufraîche du service économique de France Inter, merci. La journée de demain n'affectera pas que les usagers des transports, loin de là. C'est un appel lancé à tous les fonctionnaires. 150 cortèges sont prévus en France et parmi les manifestants, il y aura sans doute pas mal d'enseignants avec une prévision de 25% de grévistes en moyenne dans les maternelles et les écoles primaires, jusqu'à 50% même localement en région parisienne. Alors comment se prépare-t-on à la veille de cette journée qui s'annonce compliquée pour les parents? Le reportage à Marseille d'Olivier Martoc.
On est mercredi, les ATSEM, les agents territoriaux spécialisés des 441 écoles maternelles de Marseille, ne travaillent pas. Un rendez-vous pour préparer la manifestation de jeudi a été pris avec FO. La salle est comble.
On est tous d'accord de faire des grèves. Le problème, c'est que vous faites une grève, on vous lève 300 euros.
Voilà. Les questions fusent, elles sont précises sur les modalités du droit de grève et les revendications. Delia et Tata, comme on les appelle familièrement à Marseille, depuis 28 ans, elle a vu ses conditions de travail se dégrader.
On est une pour 25 et là on prend les bébés de 2 ans qu'il faut gérer avec des couches, qu'il faut gérer pour les toilettes et tout le reste. De là on manifeste pour que tout change, que le quota change, qu'on ait plus de moyens de travail. Il y a beaucoup de changements, des acquis qu'on est en train de perdre. Le travail est de plus en plus dur et il n'y a pas de reconnaissance.
Les responsables syndicaux marseillais, que ce soit Sud, la CGT, UNSA ou FO, sont persuadés que le mouvement va frapper les esprits demain par son ampleur. Les réunions préparatoires organisées tout au long de cette journée dans les secteurs concernés ont fait le plein. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Terminons ce dossier avec un sondage. Des Français très partagés sur ce mouvement. Selon une enquête Odoxa pour France Inter, 55% des Français soutiennent les manifestations de demain. Direction Nanterre, où Nicolas Sarkozy entame sa 2e journée de garde à vue face à la police judiciaire. C'est exceptionnel. La police lui a évité l'humiliation d'une nuit passée dans les locaux de la police judiciaire, mais comme c'est normalement la règle. Mais les enquêteurs ne manquent pas, en revanche, de questions à poser l'ancien président. Emmanuel Leclerc, vous êtes sur place. La question, c'est maintenant de savoir si la garde à vue de l'ancien chef d'État sera prolongée ou pas. Qu'est-ce que l'on sait ce soir ?
Eh bien, écoutez, Nicolas Sarkozy est toujours ici dans les bureaux de l'Office central anticorruption de la police judiciaire, mais sa garde à vue a pris fin en cette fin d'après-midi, après 24 heures au total d'audition. Garde à vue qui ne serait donc pas prolongée, mais comme pour n'importe quelle procédure de ce type, il y a la relecture du procès verbal avec l'avocat de l'ex-chef de l'État, Thierry Herzog, qui forcément veille à la moindre phrase retranscrite depuis hier matin, 8 heures. Ensuite, Sébastien, la question c'est de savoir ce que les juges d'instruction en charge de ce dossier vont décider. Des magistrats qui sont venus ici même superviser la fin de cette garde à vue. Leur venue, là encore, est de toute façon assez exceptionnelle, comme l'a été, vous l'avez dit, la décision de permettre à Nicolas Sarkozy de rentrer dormir chez lui la nuit dernière. Toujours selon nos informations, cette garde à vue est donc terminée et l'ancien chef de l'État devrait être entendu par les magistrats instructeurs tout de suite dans les minutes qui viennent ou dans les prochains jours. Cela, pour l'instant, n'est pas précisé.
Emmanuel Leclerc avec les moyens techniques de Raymond Albouy, puis ajoutons les propos de l'intermédiaire franco-libanais chez nos confrères de BFM TV, Ziad Takieddine, qui vient de confirmer qu'il a bien remis une valise de contenant 1,5 million d'euros à Nicolas Sarkozy et à Claude Guéant.
Il est 19h presque 11 sur Inter. Cette question maintenant, Sébastien, difficile et récurrente. Qu'est-ce qu'une prison efficace et digne ?
Une question récurrente, en effet, en France, à laquelle les parlementaires ont tenté de répondre. Plusieurs élus de la République, membres de la Commission des lois, ont sillonné les maisons d'arrêt, les maisons centrales, pendant plusieurs mois dans toute la France. Et ils viennent de rendre leur rapport. Corinne Audouin, bonsoir.
Bonsoir.
Avec des conclusions plutôt inattendues, ils proposent de créer notamment 18 prisons ouvertes.
Oui, vous vous en souvenez, il y a 15 jours, Emmanuel Macron annonçait son intention de développer les aménagements de peine et en même temps de construire 7000 nouvelles places de prison. Les propositions des députés tombent donc à pic. En deux mois, ils ont entendu 86 personnes visiter 10 établissements, notamment une prison ouverte au Danemark. Un modèle inspirant pour Yaël Braun-Pivet, la présidente LREM de la Commission des lois. Elle propose de créer 18 centres pénitentiaires de réinsertion.
Ce sont des centres qui permettent de lutter d'une façon beaucoup plus efficiente contre la récidive, qui permettent de pacifier la détention, qui permettent de construire plus rapidement et moins cher. Pourquoi 18 ? Ça correspond à 2 centres par région pénitentiaire. Ce qui, à l'horizon du quinquennat, pourrait nous permettre d'avoir 3300 places de prison qui seraient donc dans ces centres-là.
3000 places de prison, cela représenterait 5% du parc carcéral français. Pas une révolution donc, des places qui pourraient être proposées à des condamnés à des courtes peines, qui s'engageraient à suivre un travail, une formation, en échange d'une relative liberté de circulation en journée dans l'établissement. Autre proposition qui concerne les malades psychiatriques, on le sait, très nombreux en prison. Le député Stéphane Mazars demande une enquête épidémiologique, la dernière date de 2003, et la création de 2 ou 3 établissements spécialisés pour leur prise en charge. La question, bien sûr, c'est de savoir ce que l'exécutif reprendra de ces propositions, mais les députés comptent bien peser dans le débat.
Corinne Audouin, merci. Toujours au chapitre judiciaire, la ministre Marlène Schiappa présentait ce matin son projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes, amende contre le harcèlement de rue, lutte contre le cyberharcèlement, rallongement des délais de prescription en cas de viol, et enfin, fixation d'un âge pour le consentement sexuel, 15 ans, la mesure la plus débattue ces dernières semaines. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Jusqu'ici, on avait cru comprendre que les sanctions en cas de rapport sexuel entre un majeur et une personne de moins de 15 ans seraient automatiquement qualifiées de viol. En fait, le gouvernement a fait machine arrière, il n'y aura pas d'automaticité.
Oui, ça ne change en réalité pas grand-chose. Certes, le texte insiste sur un point, en dessous de 15 ans, un mineur n'a pas la capacité de discernement nécessaire pour consentir à un acte sexuel. On partira donc désormais du principe qu'il agit sous contrainte morale, la contrainte qui, avec la menace, la violence ou la surprise, est un des éléments constitutifs des infractions d'agression sexuelle en cas d'attouchement ou de viol en cas de pénétration. Voilà donc pour le texte dans sa théorie. Dans la pratique, en revanche, le gouvernement, n'ayant pas retenu le caractère irréfragable de l'infraction, c'est-à-dire l'impossibilité de la réfuter, le magistrat conserve sa libre appréciation des dossiers au cas par cas. Dans le cadre, par exemple, d'une relation amoureuse entre 2 adolescents de 14 et 18 ans, le magistrat instructeur pourrait décider de requalifier les faits en atteinte sexuelle, cette infraction qui punit toute relation entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans. D'ailleurs, la loi le précise également, en cas de poursuite pour agression sexuelle ou viol, cette question de la requalification devra être systématiquement posée au juré. l'infraction d'atteinte sexuelle, qui sera de plus punie de 10 ans d'emprisonnement au lieu de 5 actuellement. C'est d'ailleurs peut-être là la principale nouveauté.
Charlotte Pierre, du service police-justice, dont on peut retrouver l'explication en vidéo sur franceinter.fr.
Allez, direction Moscou, Sébastien, la Russie qui contre-attaque dans l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal.
Et tous les ambassadeurs occidentaux avaient été conviés au ministère des Affaires étrangères russe aujourd'hui pour que Moscou puisse exposer sa version des faits. On s'attendait à une remontée de bretelles en règle. Finalement, l'exercice s'est réduit à quelques coups de menton d'un fonctionnaire du ministère. La correspondance de Claude Brouillot.
On ne saura sans doute jamais si Vladimir Yermakov avait des consignes, mais le responsable des questions de non-prolifération au sein du ministère russe des Affaires étrangères aurait voulu envenimer un peu plus la relation entre la Russie et la Grande-Bretagne qu'il ne s'y serait sans doute pas pris autrement. Peut-être vexé par les absences conjointes des ambassadeurs britanniques, américains et français, le haut fonctionnaire russe a placé les échanges à un tel niveau de négation qu'il était difficile d'en attendre quoi que ce soit sur le plan purement diplomatique. J'ai honte pour vous, sortez de votre russophobie, de votre mentalité d'insulaire, s'est exclamé Yermakov en réponse à une diplomate britannique qui sollicitait des éclairages sur les programmes russes d'armement chimique. Et Yermakov de rajouter sur l'affaire Skripal, soit les Britanniques ne sont pas capables de fournir une protection dans ce genre d'attaque, soit ils ont eux-mêmes mis en scène une attaque contre un citoyen russe. Dans le genre dialogue à sens unique, difficile de faire mieux. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Et décidément, la tension a peu de chances de redescendre, surtout avec les dernières déclarations du bouillonnant Boris Johnson. Le ministre britannique des Affaires étrangères a trouvé, je cite, « juste de comparer la Coupe du Monde de foot en Russie avec les Jeux Olympiques de Berlin 1936 sous Hitler ». En bref, à l'étranger, on connaît désormais l'identité du serial poseur de bombes qui affolait les habitants du Texas. C'est un chômeur de 23 ans traqué par la police. Il s'est suicidé hier soir en actionnant un de ses engins explosifs dans sa voiture. En 3 semaines, ces attaques ont fait 2 morts et 5 blessés. Toujours aux États-Unis, Washington va dérouler le tapis rouge au président Macron pour sa visite d'État prévue à la fin avril. Le chef de l'État prononcera un discours devant le Congrès, un honneur assez rare réservé aux alliés des Américains. En bref, toujours à l'étranger, Ahed Tamimi, cette adolescente devenue l'icône de la cause palestinienne après avoir frappé un soldat de Tsahal, a décidé de passer un accord de plaider coupable avec la justice israélienne, jugée par un tribunal à huis clos. Elle a finalement accepté de purger 8 mois de prison, ce qui la ferait sortir de prison cet été.
Allez, on retourne en France, à Radio France, tiens, à la maison, Sébastien, puisqu'on connaît maintenant les candidats au fauteuil de PDG.
Oui, bonsoir Alexandra Hacoun.
Bonsoir.
Spécialiste média France Inter, pas de grand nom des médias ou de la culture, hein, sans doute car le périmètre de ce poste est amené à beaucoup évoluer dans les mois qui viennent, Alexandra.
C'est vrai qu'on est plutôt sur des profils pour moitié de gens de radio. Bruno Delport, qui a dirigé WFM, Nova et aujourd'hui TSF Jazz. François Desnoyers a été directeur général délégué à la stratégie et au développement, puis délégué aux antennes de Radio France. Sybille Veil est depuis 3 ans directrice déléguée en charge des opérations et des finances de Radio France. Les autres viennent de la communication, Jérôme Batou, directeur général de l'agence de conseil Publicis Média, du lobbying, Guillaume Clossa, directeur du groupe de réflexion pro-européen Europa Nova, Christophe Tardieu, directeur général du CNC, est le seul en fait à avoir une carrière de haut fonctionnaire spécialisé dans le domaine de la culture. Il est passé par le château de Versailles, l'opéra de Paris, mais pas de grand commis de l'État, pas de grand nom parmi ses candidatures. Parce qu'effectivement, avec la réforme annoncée de l'audiovisuel public, personne ne sait ce qu'il adviendra dans quelques mois du nouveau président de Radio France. Sera-t-il révoqué, transformé en directeur général si l'option d'une holding se confirme? Personne n'en sait rien. Ce flou a dû dissuader certains de se lancer dans la course, ou alors peut-être se réserve-t-il pour le poste de super président s'il est vraiment créé. On espère en savoir un peu plus courant avril.
Alexandra Hacoun, merci. Comment redonner au cyclisme sa crédibilité et dissuader les potentiels tricheurs? Eh bien, en passant par exemple les vélos au rayon X. C'est l'une des mesures du dispositif censé garantir le résultat des épreuves cyclistes. Un dispositif rendu public par le président, le tout nouveau président de l'Union Cycliste Internationale, le français David Lapartien. Les explications de Fabrice Rigobert.
Le dispositif tient dans une remorque de 3 mètres de long, 2 mètres de large pour une hauteur d'1 mètre 80 à l'intérieur. Un caisson blindé doté d'un appareil à rayon X capable d'accueillir un vélo qui, une fois radiographié...
On voit l'intégralité en fait, de ce qu'il y a des composants du vélo, du cadre et on peut voir à l'intérieur des tubes, ce qui est en fait ce que l'on cherche, ou à l'intérieur des jantes, à l'intérieur des roues.
David Lapartien est le président de l'Union Cycliste Internationale.
Là, l'objectif il est de contrôler le vainqueur de l'étape, le maillot jaune, plus un certain nombre d'autres coureurs qui seront aussi tirés au sort. Et c'est le fait d'avoir des contrôles aléatoires qui dissuadent également.
Ce caisson pour détecter les moteurs va être employé sur toutes les grandes courses Giro, Tour de France, classique, et complétera les autres dispositifs, tablettes ou encore caméras thermiques. En attendant, d'ici 9 à 18 mois, un tracker pour les champs magnétiques développé par le commissariat à l'énergie atomique, Gabriele Fioni, directeur général adjoint du CEA.
Nous, on travaille sur un tracker qui peut être, par exemple, intégré en proximité de la selle ou portée par les coureurs. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui tient dans un paquet de cigarettes.
À la technologie s'ajoute la menace de sanctions sévères, exclusion et minimum 6 mois de suspension, de 20 000 à 200 000 francs suisses d'amende pour les coureurs, jusqu'à 1 million pour leur équipe. Genève, Fabrice Rigobert, France Inter.
Ah là là, qui n'a pas dansé sur cet air de funk? Ah là là, oui, peut-être l'un des airs les plus célèbres au monde. Le Freak du groupe Chic, sorti en 78, vous étiez à peine née, Fabienne.
Mais absolument.
Des années de dance floor endiablées. Eh bien, le Freak va bientôt passer à la postérité et faire son entrée au Congrès américain dans les archives de la vénérable bibliothèque. Spécial dédicace ce soir à Michel Bézikian, notre réalisateur de la soirée, derrière la vitre, fan de Nile Rodgers. Et spécial dédicace à vous, Fabienne. Ça se sent que vous aimez le Freak.
Ah là là, oh mon fan. Sébastien, je
rêve. Non, c'était pas écrit ça.
Non, mais d'ailleurs, ça va pas du tout. Allez, revenez demain quand même, le 18-20. On continue avec le téléphone sonne sur France Inter. On va parler de médecine alternative, d'homéopathie. Notamment, est-ce que les thérapies parallèles sont efficaces? Faut-il les combattre ou les encourager, même si l'effet placebo est placebo principalement? L'est-il d'ailleurs réellement? Que disent les médecins classiques? 01 45 24 7000. La météo, c'est maintenant.
La météo avec Bleu Forêt. Fabricant français de chaussettes pour hommes en matière naturelle. Coton, fil d'Écosse, soie, laine, graphique ou classique. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Sébastien Léas, qu'est-ce qui se passe? L'ambiance est fraîche pour la saison, voilà ce qui se passe, et même froide demain matin.
Oui Fabienne, des courants de nord nous apportent des températures nettement en dessous des normales, avec des maximales variant entre 4 et 11 degrés sur la majeure partie du pays, avec 6 degrés pour Strasbourg et 7 degrés pour Dijon, Au Havre et à Tarbes demain après-midi. Le pourtour méditerranéen s'en sort un peu mieux, avec 11 à 15 degrés, mais demain matin les températures seront très souvent négatives. C'est sur le nord-est qui fera le plus froid, avec moins 4 degrés à Metz et Besançon, et même moins 6 degrés en plaine d'Alsace, mais les gelées toucheront aussi le sud-ouest, avec par exemple moins 2 degrés attendus à Agen.
Et sinon, de plus en plus de nuages demain.
Oui, en plus du froid, ces courants de nord nous envoient également beaucoup de nuages, recouvrant demain matin les Hauts-de-France et les Ardennes, puis gagnant un large quart nord-est demain après-midi, jusqu'à l'est de l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté. Quelques pluies faibles sont attendues, avec un peu de neige en plaine près de la frontière des Ardennes demain matin. La limite pluie-neige remontant vers 300 mètres demain après-midi, pouvant donner une couche de quelques centimètres sur les Vosges et un blanchiment temporaire en Lorraine. Sur le reste du pays, les éclaircies présentes en matinée, notamment au sud de la Loire, seront plus timides l'après-midi. Le soleil se montrera davantage sur la façade atlantique, la Bretagne et entre les Pyrénées, les Alpes et le pourtour méditerranéen. Et puis à noter que le vent sera fort autour du golfe du Lion, notamment la Tramontane, les rafales dépassant 100 km/h.
Sébastien Léas de Mesto France, merci.